recherche.
Un service de designer, de peintre, de déco, un nouveau revêtement plancher, plein d'accessoires de rangement, des outils.
Et plein d'autres affaires qui vont faire que tu vas donc ben être heureux dans ton garage.
Jusqu'au 21 avril.
On pime ton garage.
Une collaboration Polysurface, Richard et compagnie, Urban Déco, Benjamin Moore, Spacer, accessoires d'auto nordique et Radio X.
Pime ton garage.
Radio X. Radio X. Le 5 à 7. Avec DH. Radio X.
Ouais, définitivement, ça se passe aux États-Unis cette semaine. Ça a été une grosse semaine émotive pour eux et c'est loin d'être terminé parce que, bon, à Boston, on cherche toujours le type, là.
Hey, peut-être juste vous dire que suite au point de presse de la police de Boston, l'interdiction de sortir est levée. Par contre, on pense encore que le suspect est au Massachusetts.
OK, mais on n'assure plus ou on ne croit plus qu'il soit nécessairement dans le fameux quartier.
Ouais,
là.
C'est ça. On ne demande plus aux gens de dire « reste à la maison, sortez pas ». L'interdiction de sortir a été levée. Mais évidemment, on dit aux gens de rester prudents.
Bon, on s'entend qu'on est
gros bon sens.
Oui, on est sur le qui-vive encore dans ce coin-là, Massachusetts.
Absolument, absolument.
Et on est aussi sur le qui-vive au Texas, parce qu'on en a moins parlé cette semaine. Marc-André.
Moi, le dernier bilan me donne 14 morts à West au Texas.
Mais ce qui arrive, c'est qu'il y a tellement de personnes disparues dont on n'a pas la trace encore.
Encore 60 personnes qui manquent au compte. Là.
Bon, on s'entend, ça a eu lieu quand l'explosion?
Ça a eu lieu mercredi.
Mercredi, on est vendredi, ça fait 48 heures. Fait que si on n'a pas de nouvelles de ces gens-là depuis 48 heures, je m'attends peut-être pas à ce qu'on en retrouve tant que ça. Mm. C'est désolant, on s'entend là-dessus.
Absolument.
On va aller jaser avec une personne qui est à Boston et on va aller jaser avec une personne qui est au Texas. On regarde pas les dépenses ce soir. On veut s'informer. Serge Grégoire est au Massachusetts. Bonjour, M. Grégoire.
Oui, bonjour.
Oui, restez là. Et Julie Lesage, avec qui on correspond de temps à autre, est au Texas. Bonjour, Julie.
Salut.
Oui, on va commencer par toi. On en a entendu parler moins ici dans les médias au Québec de ce qui s'est passé au Texas parce que c'est vraiment Boston qui attire toute l'attention. C'est à quelques heures d'ici, mais ce que vivent les gens du Texas, c'est gros, là. Parle-nous-en un peu. Je sais que tu as fait quelques recherches pour nous, Julie. C'est pas la première fois qu'il y a ce genre d'explosion dans une entreprise où on a des produits chimiques, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est des fertilisants, là. Il y avait déjà eu une explosion comme ça dans le même genre, si on regarde les vidéos qu'il y avait, puis en plus, c'était vraiment des vidéos en noir et blanc. C'est en 1947, ça avait tué 581 personnes, entre autres, tous les pompiers qui étaient sur place, sauf un. Et donc, là, ce qu'on voit, c'est que c'est à peu près la même chose, mais on n'a pas, c'est vraiment pas médiatisé. C'est médiatisé localement, mais on voit rien. Moi, j'écoutais Fox News aujourd'hui, j'essayais d'écouter CNN, tout ça. On n'en parle pas.
Et j'ai l'impression que ça peut être frustrant dans une certaine mesure ce que vous vivez là, parce que c'est encore plus tragique. On parle de 14 ou 15 morts. Le mal nous a donné le chiffre. Mais
on dit 14, mais Julie, au Texas, est-ce que le bilan est à 14 aussi?
Présentement? Il y a des sites qui disent à peu près, ils disaient 35. Parce que le problème,
c'est ça diffère
voir,
beaucoup,
que,
là.
Il y a plusieurs patients qui ont été amenés à l'hôpital, qui des grands brûlés qui sont vivants, mais pas reconnaissables.
Oui. C'est grave, ça, là.
C'est atroce.
Bon, donc, ces gens-là sont encore vivants, on est incapable de les identifier.
Exactement. Donc, il y a plein de gens qui sont manquants à l'appel. Mais on ne sait pas s'ils sont vivants à l'hôpital. Il y a plusieurs personnes. Tu sais, on peut penser. Je ne sais pas si vous avez vu les vidéos de l'explosion, les photos aussi. Mm-hmm. C'est gros, là. C'est vraiment big. Donc, ça l'a. Les gens qui étaient à l'intérieur, qui étaient en train de justement combattre le feu. Est-ce qu'il y en avait justement? Est-ce qu'il y en avait qui étaient en train de combattre le feu? Est-ce qu'il y a des gens qui n'avaient pas encore eu le temps de s'éloigner? Il y a 25 maisons qui ont été complètement pulvérisées. Il y a eu un complexe d'appartements, je pense de 50 appartements aussi, même chose, et il a été complètement rasé. Donc là, c'est vraiment d'essayer de trouver des gens dans tout ça. Mais bizarrement, il n'y a aucune couverture médiatique.
Ouais, le timing avec Boston fait en sorte que...
Ben oui, c'est ça, les journalistes sont quasiment tous...
Il y en a un qui est terroriste, là, puis l'autre, c'est vraiment un feu accidentel, là. C'est pas quelqu'un qui est allé mettre le feu, je pense pas. Là.
Ouais, est-ce qu'on soupçonne un acte criminel ou pas, Julie?
Encore une fois, la compagnie elle-même dit que c'était impossible qu'un accident comme ça arrive. mais on n'a absolument aucune conclusion à ça. Ben, on va probablement en avoir plus tard, là, quand ils vont avoir fini de faire les investigations et tout ça. Mais pour l'instant, la compagnie dit que un truc comme ça, c'était impossible que ça arrive.
Mais ça va quand même être la panique, j'imagine. Là, t'essaies de prendre contact avec ta famille, sachant qu'ils ont une résidence près de l'entreprise. Une quarantaine de maisons, tu me dis, ont été soufflées là avec l'explosion. Ça va vraiment être bordélique en ce moment au Texas. Julie, tu restes là. On va aller rejoindre Serge Grégoire, qui, lui, est chercheur en cardiologie au General Hospital. C'est au Massachusetts. C'est à Boston même, monsieur Grégoire, c'est ça?
Exact.
Bon. Quel genre de semaine vous vivez, vous? Je pense que depuis que vous êtes là, c'est de loin là, l'événement le plus tragique.
Oui, en effet. C'est une semaine de fou. On savait pas tout ce qui se passait. Il y avait beaucoup de confusion. Les gens paniquaient. Il y avait de l'armée dans la ville. Il y avait des policiers. Il y avait les marines. C'était une zone de guerre, on dirait. Mais c'était surtout de la confusion qui régnait. On savait pas tout ce qui se passait. La version officielle, on dirait qu'elle changeait de jour en jour, d'une heure en heure. Donc, ouais, c'est une semaine assez intense pour nous.
Est-ce que au General Hospital, vous avez reçu des blessés?
Oui, on a reçu plusieurs, en effet, lundi. On a reçu probablement la plupart, je dirais. On a reçu beaucoup. Non. Et lundi, c'était intense à l'hôpital. Ils fouillaient tous les sacs. Ils regardaient les identités de toutes les personnes qui rentraient. C'était très... la sécurité était très présente.
On dit que la crainte s'est installée à Boston. On le voit aujourd'hui. Les gens ne sortent pas. On a fait des comparatifs de photos quand la ville est normale et depuis lundi, c'est désert dans les rues, c'est désert sur les ponts. Comment les Bostonais, vous le vivez là? Est-ce qu'il y avait moins d'achalandage aussi à l'hôpital? Est-ce que les gens vont préférer rester à la maison au lieu d'aller se faire soigner parce qu'on craint?
En effet, il y avait personne dans les rues. Moi, j'étais à Boston aujourd'hui. J'ai dû prendre le taxi parce qu'il n'y avait pas de transport adapté. C'était vide, vide, vide. Et les personnes à l'hôpital ne pouvaient pas sortir. Ils étaient restés dans l'hôpital pour cause de sécurité. Et tout était fermé, les magasins, les restaurants, les épiceries. C'était la panique générale.
Et là, ça ressemble à quoi, votre confiance? Est-ce que vous iriez à un match? Parce qu'on disait que ça va affecter le sport, hein, surtout dans la région de Boston. Est-ce que vous iriez dans un match de sport là, en fin de semaine?
Tout à fait. Je n'ai pas de problème. Je me sens en sécurité. J'ai aucun doute. Apparemment, c'est le suspect est en fuite. Donc, j'ai confiance en la police et tout. Donc, j'ai aucun problème avec ça.
Ouais. Qu'est-ce que vous voyez dans les prochaines journées là, à Boston? Comment vous voyez ça? Comment ça va se passer, d'après vous, dans la prochaine semaine et dans le prochain mois?
À mon avis, lundi prochain, tout va redevenir dans l'ordre. Et d'ici une semaine ou deux... la vie va reprendre et on n'aura pas oublié, mais on va reprendre notre cours de vie.
Est-ce que vous sentez la présence forte des policiers en ville?
Oh, c'était extrême. Cette semaine, il y en avait partout. Ils étaient armés lourdement avec des mitraillettes et tout. C'était un peu peurant, je veux dire. C'était une présence partout. C'était terrible.
Là, je ne sais pas si vous êtes chez vous, mais je suppose que quitter le nid familial avec ce genre de situation-là, c'est pas évident, là. Sachant que les enfants et l'épouse sont à la maison, faut aller travailler, mais d'un autre côté, on dit aux gens de rester à la maison. Ça doit être insécurisant?
Un peu, en effet. Mais moi, quand j'étais allé au travail ce matin, j'étais pas au courant de la situation. J'étais arrivé au travail et là, j'ai réalisé que j'aurais pas dû rentrer. Donc... c'est ça, c'est un peu parent, surtout pour notre famille, nos amis. On a reçu beaucoup d'appels pour voir si on allait bien et tout. Donc, tout le monde est un peu stressé cette semaine.
Bien, merci beaucoup, M. Grégoire. Bonne continuité dans ça, en vous souhaitant la sérénité dans les prochains jours.
Exact. Merci
beaucoup. OK, bye-bye, Serge Grégoire. Ouais. Julie, je reviens avec toi pour une question. Avec ce qui s'est passé, je sais que tu as suivi ton cours au niveau de la manipulation des armes. Ce qui s'est passé à Boston, d'après toi, est-ce que ça va relancer le fait que les Américains doivent s'armer? Parce que en ce moment, là, il y a une chasse à l'homme. Il y a des gens qui ne sortent pas de la maison, sachant qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut venir sur leur terrain armé. Alors, j'ai l'impression que ça va consolider ce que la RNA veut faire.
Ben, c'est sûr que c'est ce que j'entends, là. C'est ce qu'on me dit. Puis ça, on l'entend depuis longtemps. T'sais, tant qu'il va y avoir des fous en liberté, on va être capable de se défendre parce que, bon, la police, elle peut pas te suivre partout. Donc, oui, je pense qu'Obama va avoir un petit peu de difficulté à faire passer ses lois de contrôle des armes. Puis même encore là, tu sais, c'est tellement drôle.
Mais il voulait empêcher les fous d'avoir des armes, là. Tu sais, je comprends pas pourquoi ça n'a pas passé. Il voulait empêcher les fous d'avoir des armes. Je comprends pas pourquoi ça n'a pas passé.
Oui, mais parce qu'encore là, non, c'est pas ça. Là, ça a été vraiment repris, mais c'est faux. Ce qu'ils ont dit, c'est que ce qu'ils voulaient faire, c'est un background check.
Contrôler, ben oui, avoir un certain contrôle, une certaine information sur qui achète quoi.
Ben oui.
Oui, mais on en a déjà de ça. C'est ça que les gens ne savent pas. On a déjà le background check. Faut, quand tu vas acheter une arme, t'as déjà, c'est obligatoire pour toi de passer un background check puis de poser des questions sur ta santé mentale. Bon, tu peux bien répondre ce que tu veux. Mais ce qu'ils voulaient faire, en fait, c'était obliger les gens qui veulent vendre leur mettons leur fusil aux voisins de passer par l'État, donc c'est-à-dire d'aller faire un background check à ces personnes-là. Mais en même temps, on le sait tous que les criminels là, ils sont pas légaux, ils vont pas faire le background check, ils vont pas dire ah ben oui, ben je vais aller faire mon background check, tu sais, je le sais que je suis illégal, fait que je vais aller en faire un. Donc et c'est des coûts supplémentaires, ça engorge le système. Et même chose, si on demande aux fous, ceux qui ont, soit qui prennent des pilules ou ceux qui ont des maladies mentales, on va jusqu'où? Qu'est-ce qui est considéré comme étant trop une dépression? Est-ce qu'on enlève les armes à feu de quelqu'un qui est dépressif?
C'est-tu, Julie, moi, ouais, je suis peut-être un des seuls ici là, à l'antenne, peut-être un autre là, qui dit que, bon, moi, je suis pour ça qu'on soit armé aux États-Unis, sachant les conditions du pays et tout ce qui arrive. Par contre, il me semble que c'est logique, que c'est illogique qu'on puisse s'acheter une arme d'un coin de rue ou d'un dépanneur ou d'un Walmart là comme ça, ou dans des espèces de ventes ou de festivals, de je sais pas trop quoi, d'expositions là. Ça semble trop facile se procurer un fusil aux États-Unis par n'importe qui, n'importe quand, n'importe où.
Ben pourtant, j'ai passé un background check, je veux dire, bon, ça a pris 3 jours avant qu'ils me reviennent avec la réponse, je veux dire, c'est pas si facile que ça, là.
Ben c'est 40% des armes, je pense, qui sont vendues sans qu'il y ait de preuves ou de factures ou que ça s'achète, là, sur un coin de rue. C'est les statistiques qui a été sorti. Merci beaucoup, Julie!
Ça m'a fait plaisir.
Toujours un plaisir de te jaser.
Bye-bye.
On dirait que du Texas, Julie...
C'est le problème, c'est que ça n'enraye pas le marché noir, là. Non. Peu importe les mesures qui sont prises, gouvernementales ou pas, ou tu sais, que ce soit limité, que ce soit les États qui le gèrent ou pas, ça n'enraye pas le marché noir. Ça, c'est la réalité.
Puis, je veux dire,